groupes de niveau sont appelés à bouger en fonction eh bien, de l'évolution des élèves. Donc, ce n'est pas des groupes fixes et ça n'est pas un groupe classe.
L'hétérogénéité dans une classe, c'est ce qui permet de faire avancer le groupe ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des élèves moteurs, mais ces élèves moteurs, ils progressent aussi dans d'autres compétences, notamment sur la sociabilisation, sur la sociabilité des élèves. Si dès le plus jeune âge, on apprend aux gens à travailler avec l'autre, à respecter l'autre, à connaître l'autre, on a une société qui va devenir plus humaine, plus humaniste.
Pas si simple. Invité du jour, Philippe Mérieux.
Éric, Étienne, c'est quand tu veux.
On vient de l'entendre à l'instant. Alors, l'égalité, c'est aussi l'un des grands sujets pour l'éducation aujourd'hui. Tout le monde est d'accord pour en faire, mais quand on regarde concrètement, eh bien, on n'est plus d'accord.
C'est compliqué, l'égalité. On parle d'égalité des chances. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression. Je préfère parler de l'égalité du droit d'accès de tous à l'éducation, à la culture. Ça me paraît important. Et une véritable égalité dans une république, c'est le fait aussi de donner plus et mieux à ceux qui ont moins. C'est, me semble-t-il, une obligation de moyens que doit s'imposer une société qui se veut une société républicaine et démocratique. Alors après, l'école...
Est-ce qu'on a pu voir avec les zones prioritaires ou...
Oui, mais...
Ou certaines régions où on va limiter les classes.
Avec les zones prioritaires, mais c'est un peu un trompe-l'œil, parce que si on regarde les collèges des zones prioritaires, on s'aperçoit que comme ils ont essentiellement des professeurs vacataires et contractuels et débutants, eh bien, si on ne prend pas simplement le budget supplémentaire, mais si on prend le budget salaire compris, eh bien, un élève de collège prioritaire coûte beaucoup moins cher qu'un élève de collège de centre-ville. Donc, nous donnons encore beaucoup plus à ceux qui sont déjà favorisés. Là-dessus, nous avons, me semble-t-il, encore à progresser. Mais peut-être que le problème majeur de l'école, et on le voit bien dans l'interview croisée que vous avez présentée, c'est de combiner ce que j'appellerais le droit à la ressemblance et le droit à la différence. Une classe est extraordinaire, c'est des gens qui viennent avec chacun une histoire et qui partagent les mêmes savoirs. Chacun avec son histoire, parfois son handicap, ses difficultés, parfois des parents plus ou moins facilitateurs, et on partage les mêmes savoirs. Donc il y a la reconnaissance de la différence constitutive des individus, et puis cet objectif qui est réaffirmé ici par les deux personnes qui interviennent, qu'ils acquièrent tous ces savoirs qui unissent et qui vont faire qu'ils vont pouvoir parler ensemble, qu'ils vont pouvoir faire société. Alors, c'est difficile institutionnellement à structurer ça, parce que notre institution va alternativement et d'une manière quasiment psychotique privilégier le droit à la ressemblance ou le droit à la différence. Par exemple, le droit à la ressemblance, on va le privilégier en faisant des classes homogènes. Voilà. Et puis, on va privilégier ensuite en disant, on va faire des classes hétérogènes. Là, le droit à la différence va être mis en place d'une manière... Parce qu'on ne sait pas bien articuler les deux. On ne sait pas bien travailler à la fois le même et le différent. Et l'enjeu pédagogique pour la gestion d'une classe aujourd'hui, c'est d'être capable de mener un collectif avec des moyens différents vers des objectifs communs.
Mais alors justement, l'égalité des chances, indépendamment des considérations financières, l'égalité des chances, est-ce que ce n'est pas donné à un élève excellent? Bah, tout ce qu'il lui faut
bien
pour
sûr.
Pouvoir exceller encore
mais
davantage
bien sûr, mais bien sûr.
Et dans le même temps donner le plus possible à un enfant qui est en difficulté, qui a besoin d'être aidé davantage. Enfin, je voudrais que vous nous expliquiez cette question d'égalité des chances, surtout quand on a des enfants qui sont locomotives.
Égalité des chances, c'est pour moi égalité non pas de tout ce qu'on va donner à la personne, mais c'est la possibilité de lui fournir les ressources qui vont lui permettre d'optimiser au mieux ce qu'il est, ce qu'il veut faire, et de lui permettre d'être fier de lui,
Maintenant, voilà. Cette égalité, on voit bien aussi qu'il y a une critique qui revient régulièrement actuellement sur l'école. On parle de nivellement vers le bas. Et il y a quand même aujourd'hui des indices pour voir quand même que le niveau, par exemple, en orthographe...
Tout à fait.
...est en train de se casser la
maîtrise
figure.
Maîtrise de l'écrit.
Les mathématiques, on va les supprimer du tronc commun au lycée parce qu'au fond...
On les a réintroduites.
Oui, mais il a fallu les retirer pour se rendre compte que c'était catastrophique. Cette question du nivellement vers le bas, qu'est-ce que vous y répondez?
Alors, d'abord, je crois qu'il n'y a pas réellement de nivellement vers le bas.
Si l'égalité, c'est pas partir du principe que, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde réussira.
Alors, il faut distinguer les choses. Le problème ne se pose pas de la même manière dans ce qu'on pourrait appeler la scolarité obligatoire et après. L'ambition d'un pays comme la France, c'est que les objectifs de la scolarité obligatoire soient atteints par toutes et tous. Là, c'est une ambition en termes d'égalité de résultats. C'est ce qu'on appelle le tronc commun de compétences, de connaissances et de culture. Il y a une ambition. On en est très loin, mais c'est une ambition que je trouve tout à fait légitime.
On a un bac qui...
Non, c'est pas le bac, c'est... Oui. L'âge de 15 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire. L'âge de 16 ans, pardon.
D'accord.
C'est la fin de la scolarité obligatoire, ce tronc commun qui a été validé par des gouvernements de gauche et de droite successifs. C'est cette espèce de bloc de compétences dont on considère que ce sont les fondamentaux de la citoyenneté. Mmh. Que pour être citoyen, il faut avoir maîtrisé tout ça. Là, je pense que il faut une égalité de résultats. Il faut une égalité de résultats, en tout cas, il faut la viser. Après, on est dans une situation totalement différente. Au-delà du tronc commun, au-delà de ce bloc de connaissances, au-delà de ce qu'on appelle donc le socle, eh bien, chacun et chacune doit pouvoir investir et s'engager dans les domaines qui lui apparaissent les plus favorables et les plus capables pour lui de lui apporter un épanouissement. Mais pour cela, il faudrait, on en est loin, que dans le tronc commun, il y ait tous les enseignements qui seront représentés après. Or, en France, nous avons un vrai défaut, c'est que dans ce tronc commun, il y a très peu de manuels. Et donc, comme il n'y a pas de manuels, on va orienter vers le professionnel ceux qui seront au fond un échec dans les disciplines d'enseignement général.
Alors, pourtant, on a quand même besoin d'excellence même dans ces matières-là, non ?
Oui, d'une part, et d'autre part, nous savons aujourd'hui...
C'est dévaloriser le manuel, quoi.
Oui, alors, nous savons aujourd'hui en plus, parce que là, les recherches sont complètement convergentes et tout le monde est d'accord, que le seul véritable contrepoint à l'hégémonie et à la fascination de l'écran, c'est le travail de la main. Le travail de la main, c'est construire, c'est faire, c'est découper, c'est faire avec du bois, c'est faire avec de la terre, c'est faire des cabanes, c'est faire un moteur. C'est ça qui fait, qui va être le vrai contrepoint pour sortir de la virtualisation du monde qui menace une grande partie de nos enfants. Et pourtant, l'école, elle continue à minimiser ça. Et moi, qui ne suis pas un fanatique du système finlandais, j'admire quand même dans ce système le fait que tous les enfants, de l'entrée dans la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, ont deux demi-journées complètes de cours au cours desquelles ils auront, dans l'une d'entre elles, mécanique, ébénisterie, etc., et dans l'autre, cuisine, couture, etc., qu'ils soient garçons ou filles. Et donc, ils vont pouvoir découvrir un certain nombre de choses qui vont pouvoir leur donner le goût de faire ça. Et on va aller progressivement vers une orientation qui ne sera pas simplement par défaut. On n'enverra pas simplement les enfants dans les lycées professionnels parce qu'ils ont échoué en français, en mathématiques et en anglais. On enverra aussi où ils iront aussi, il faut l'espérer, parce qu'ils auront découvert qu'un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui dépréciées à tort, parce que l'idée d'activité manuelle dépréciée est absurde, eh bien, sont des activités dans lesquelles ils peuvent se développer et s'épanouir complètement.
Eh bien, justement, il y a des lieux où on expérimente justement de façon, de nouvelles manières d'éduquer et d'élargir le champ éducatif. Je crois qu'Étienne et Nicolas sont justement pris leur petite voiture la semaine dernière. Je vous propose de les écouter.
Pas si simple. Direction la Maison Française à Cuise-la-Motte.
Rémi Lebas, merci de nous accueillir ici à la Maison Française. On est à une heure de Paris, tout près de la forêt de Compiègne. La Maison Française, c'est un établissement qui propose aux jeunes de vivre la pédagogie du scoutisme, à commencer par l'aventure quand même. Là, on est en pleine campagne.
Oui, tout à fait. Donc, au cœur de la forêt de Compiègne, forcément, la première chose qui nous frappe quand on arrive, c'est ce cadre, ces lieux incroyables, cet espace de vie. On est sur un domaine qui doit faire une douzaine d'hectares à peu près, et donc avec une possibilité d'exploiter les lieux et la zone. Ça, c'est quelque chose qui se ressent même chez les élèves, d'avoir cette qualité de vie, tout en maintenant les traditions et les axes posés par le père Sevin il y a maintenant fort longtemps. La base, c'est leur faire confiance et les aider à grandir. Donc, on leur fait confiance dans un certain nombre de tâches du quotidien. On leur donne des responsabilités, mais on laisse également les élèves en prendre. Et on les aide petit à petit, au fil du temps, à grandir. Les élèves que vous allez rencontrer, il y a une vraie différence entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils sont maintenant de leur parcours. En tout cas, il s'est passé quelque chose.
Vous jouez à quoi là hein?
On joue à la tech.
C'est l'équipe adverse qui a commencé.
Bon allez, que le meilleur gagne. Alors on vous regarde jouer un petit peu.
On est les meilleurs.
Rémi Lebas, vous allez me présenter la sœur Pascale. Il paraît que c'est un pilier ici.
Absolument, on la rejoint. Voilà, elle doit nous attendre quelque part à l'entrée du château. Je crois que je l'aperçois un peu plus loin.
Bonjour ma sœur. Et quel est le secret de la maison française pour rendre ses enfants heureux?
Je pense qu'il y a une vraie fraternité. Vous avez vu tout à l'heure des jeunes qui étaient en train de faire un grand jeu ensemble. Elles vivent aussi en équipe, donc il y a un chef d'équipe qui a un rôle. Après, les responsabilités que les élèves ont en classe leur permettent de développer ce sens de la responsabilité. Et puis, dans le sens du concret, avec la réalisation de badges, qui sont des œuvres qu'ils doivent réaliser par matière, comme dans le scoutisme où ils doivent réaliser des œuvres.
Alors on va aller rencontrer ces enfants qui sont en train de faire un grand jeu, certains sont en train de faire des ateliers, enfin voilà, tout cela est organisé. On enregistre ce reportage un mercredi après-midi. On va aller les rencontrer, vous nous racontez ce qu'ils font et comment ils vivent justement cette pédagogie particulière de la maison française.
Alors moi, j'ai jamais fait de scout ou quoi que ce soit. Mais ici, il y a beaucoup d'entraide. Les profs sont beaucoup à notre écoute. Ils nous mettent en confiance et c'est peut-être par la confiance qu'on arrive à être dans le cadre, à se dire, bon, ils nous font confiance, on va respecter leurs règles.
Avant la troisième, tout ce qui est sixième, cinquième, quatrième, il y a une activité du coup le mercredi après-midi qui s'appelle le plein air. Tout se réunit et on y joue, mais à partir de la troisième, il y a quelque chose. On va former des équipes avec seconde et troisième et on va avoir un projet tout au long de l'année qu'on va réaliser pour, par exemple, gagner de l'argent et à la fin de l'année, nous payer une activité dans un parc, nous payer quelque chose en équipe.
Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, genre on n'est que 15 ou 20 par classe, du coup c'est bien. Et aussi, on est en plein milieu de la forêt.
Nous sommes la maison française, bien plantée au bon sol des aïeux, que jamais, jamais ne se taise.
Pas si simple. Invité du jour, Philippe Mérieux.
Alors, cette initiative, elle est très intéressante. Et alors, avec un mot qui revient en permanence, la responsabilité.
Oui, c'est très important. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce que je crois, de ce que nous montrent d'ailleurs tous les travaux de recherche, c'est que l'école n'enseigne jamais ce qu'elle dit, elle enseigne ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire des proclamations, d'afficher des chartes, etc. C'est bien, il faut le faire. Mais il faut faire vivre les valeurs de l'intérieur. Faire vivre les valeurs que l'on annonce. Faire vivre les valeurs de fraternité et de responsabilité, bien sûr. On le sent ici avec la mise en exergue du système des badges dans le scoutisme. Et alors, c'est très rigolo parce que vous savez que un des pédagogues les plus célèbres du XXe siècle, mais qui était loin d'être dans la mouvance catholique, puisque c'est Célestin Freinet qui était communiste, a basé une grande partie de sa pédagogie sur le scoutisme et sur le système des brevets dans le scoutisme. Parce que Freinet était attentif au fait qu'il fallait donner à chacun la possibilité d'accéder à un savoir qu'il pouvait partager avec les autres. Donc on donnait des brevets, et c'est exactement ce qu'on nous explique ici. Ce qui montre qu'au fond, les solutions pédagogiques n'obéissent pas au clivage idéologique traditionnel, qu'elles sont d'un autre registre, et qu'on se tromperait en opposant d'une manière artificielle des gens en fonction de la façon dont ils se situent sur l'échiquier idéologique.
Moi, j'étais surpris pendant ce reportage. Je pensais qu'on allait avoir des témoignages de jeunes qui nous parleraient de l'autorité, du cadre, de leur uniforme. Très, très peu. Ils ont tous parlé de fraternité, de leurs enseignants, qu'ils appellent d'abord chef et cheftaine, d'ailleurs. C'est rigolo. Il y a cette notion de famille dans cette école. Et je me suis posé la question...
Ils sont combien, les élèves, dans cette école?
Dans cette école, je ne sais pas combien ils sont. En tout cas, par classe, ils sont entre 10 et 15.
Et il y a combien de classes?
Et il y a une classe par niveau. Donc, vous voyez,
c'est une
petite école. Ouais.
Alors, ce que vous dites est très important. Parce que, là encore, les travaux de recherche sont complètement convergents. Aujourd'hui, quel que soit l'horizon idéologique, on réussit mieux dans des microstructures, dans des structures où il y a une taille humaine. Globalement, on sait qu'à peu près 120 élèves pris en charge par 10 adultes, 15 adultes, ça marche toujours. Ça marche toujours parce que ça crée un collectif dans lequel chacun est identifié, dans lequel il y a des relations personnelles fortes. L'économie d'échelle que nous avons, à laquelle nous avons adhéré massivement, qui fait qu'on crée des gros établissements parce qu'on économise une photocopieuse ou deux, se crée un poste de secrétariat, ça crée des problèmes sociaux, des problèmes de comportement. Et ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on économise en termes d'investissement. Donc oui, des micro-établissements, il faut aller vers des unités pédagogiques à taille humaine.
Moi, j'étais frappée,
quel que soit le contexte idéologique.
Dans ce reportage aussi, on ne l'entend pas, mais j'ai rencontré une dame, une professeure qui se fait appeler Chef Ted Marie, et elle témoigne de la souffrance qu'elle a connue dans un établissement scolaire où elle avait des classes de 35-40 élèves, et dit à quel point là désormais elle vit comme un famille. Bon, l'école c'est pas la famille, mais c'est important que l'élève se sente comme dans un lieu qui lui est familier au moins.
Et le professeur
exactement.
Aussi.
Exactement, et là, c'est frappant ce que vous décrivez à propos de cette école que je ne connais pas, est très proche de ce qu'on pourrait vivre au lycée autogéré de Paris, qui est en difficulté aujourd'hui parce que, justement, l'éducation nationale a du mal à intégrer des petites structures où il y a des effectifs plus légers, où les adultes sont investis d'une manière collective et en équipe. Voilà, et on multiplie des grosses structures énormes où l'anonymat engendre de la violence, du harcèlement, où il n'y a plus de repères adultes. Un élève de sixième, quand il arrive en sixième, il a 12 professeurs qui n'ont pas les mêmes classes. Donc, il ne voit jamais ces 12 professeurs en même temps. Comment voulez-vous qu'il ait l'idée de ce qu'est l'unité de cette école? Il n'a jamais vu ces 12 professeurs ensemble. Il ne sait pas ce que c'est que l'école comme institution. Il est embarqué dans une multitude de situations. Et ça, c'est extrêmement difficile pour un élève pour s'en sortir, et plus il aura eu des difficultés personnelles, familiales, matérielles, plus il sera perdu dans ce type de structure gigantesque.
Philippe Mérieux, je ne vous présente pas Isabelle de Golemin, je crois que vous connaissez déjà. Je vous propose de lui laisser maintenant la parole.
Pas si simple. Thème du jour, voilà. L'école ne sait plus éduquer. Un podcast proposé par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Invité, Philippe Mérieux.
Isabelle de Golemin, présidente des Semaines Sociales de France, nous a donc rejoint. Isabelle, vous assistez depuis le début à cette discussion. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Alors, peut-être la première chose, c'est qu'on a tracé un cadre un peu idéal de ce que devrait être l'éducation. Et plus ça allait, plus je me disais, mais c'est quand même très différent de ce qui se passe en réalité. Moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir été mère. Et c'est vrai, quand vous êtes parent d'enfants et d'école ou de lycée, bah, vous avez un choc, parce que quand vous retournez comme parent, vous retrouvez exactement la même structure, mot pour mot, que celle que vous avez connue 30 ans auparavant, c'est-à-dire que rien n'a changé. Vous avez la classe de 35 élèves, alors les parents sont dans les petits bureaux, vous avez le tableau, la craie et le prof qui dit à peu près les mêmes choses. Et donc, on a vu un exemple très très particulier, mais est-ce qu'il n'y a pas chez vous, et on le sent un peu dans votre dernier livre, un peu de désespoir devant une institution qui ne bouge pas? L'entreprise, elle a bougé, les méthodes de management étaient complètement chamboulées, on n'est plus du tout dans les mêmes bureaux qu'autrefois, on évalue les gens de manière très différente, de manière d'ailleurs avec beaucoup d'empathie normalement dans une entreprise, même si tout n'est pas rose. Mais alors l'école, on est resté dans le cadre des années 50. Et ça vous...
Je suis assez d'accord. Oui. Non, je suis assez d'accord. Alors, ça ne me désespère pas parce que j'ai la chance, c'est une chance extraordinaire pour moi, de travailler beaucoup avec des enseignants qui refusent ce statu quo. Donc moi, je suis un compagnon de route des enseignants qui ne mettent pas les 30 parents dans les petites tables, sur les petites chaises. Non, je suis un compagnon de route des enseignants qui bousculent un petit peu la forme scolaire traditionnelle, qui vont dehors, font venir des artistes, qui travaillent avec le numérique, mais d'une manière astucieuse, intelligente, qui mobilisent les élèves, qui s'inspirent des pédagogies nouvelles, qui s'inspirent du scoutisme ou d'autres choses. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu minoritaires et ils sont moins minoritaires qu'on ne le croit, mais ils ne sont pas assez soutenus. Et je pense qu'un des enjeux de l'éducation nationale, c'est de faire confiance de militer pour la liberté pédagogique de ses enseignants et de sortir du « je ne veux voir qu'une tête, tout le monde fait la même chose à la même heure et de la même manière », parce que ça, c'est mortifère pour l'institution, pour les personnes, et ça contribue à leur découragement. Ça contribue à leur découragement.
Et alors justement, parce que vous avez beaucoup parlé de pédagogie, puis vous avez utilisé un autre mot qui m'a frappé, c'est le mot de « commun ». Dit, on est là pour construire du commun. C'est quelque chose qu'on dit assez rarement, me semble-t-il, de l'école. Et ça m'a rappelé une notion de la doctrine sociale de l'Église, qui est le bien commun. Mmh. Alors, est-ce que, selon vous, l'école doit favoriser le bien commun?
Bien sûr.
Comment est-ce qu'elle doit faire? Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement enseigner ou éduquer, mais c'est aussi travailler sur les relations interpersonnelles des gens.
Absolument. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'une des missions de l'école, c'est de faire entendre que la somme des intérêts individuels, ça n'est pas le bien commun. Que le bien commun se construit, qui se construit dans un débat respectueux, qui se construit en écoutant chacun et qui se construit non pas par la victoire des uns sur les autres, mais par la capacité qu'on a de construire ensemble des solutions qui dépassent les affrontements. Alors ça peut se faire. Il y a encore beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle le conseil. Le conseil, c'est les élèves qui, sur un certain nombre de questions, débattent, prennent des décisions collectivement. Alors le conseil, c'est pas une discussion de café du commerce. Hein. Il y a un président de séance, c'est jamais le même. Tout le monde à son tour, il y a un secrétaire, il y a un ordre du jour. Tout ça doit être très structuré. Je connais aussi beaucoup de professeurs des écoles qui pratiquent la philosophie pour enfants et qui font ce travail où on organise des débats, où chacun donne un point de vue, où on essaye de construire un point de vue commun. Alors en distinguant bien sûr ce qui relève du commun de ce qui relève du droit de chacun d'avoir son opinion personnelle. Mais je crois qu'il faudrait encore plus insister là-dessus et ça me renvoie à ce que nous disions en début d'émission, à savoir que l'école ne peut pas être simplement au service de chaque individu en particulier, qu'elle doit en tant qu'institution portée par une volonté collective permettre à tous ces enfants de se découvrir frères et sœurs en humanité, de se découvrir capables de se parler, de se découvrir capables de construire des choses ensemble sans qu'aucun ne soit opprimé par les autres. Et ça me paraît très important et je crois que beaucoup d'enseignants souhaiteraient faire ça et voudraient bien faire ça. Alors certains ont peur de leur hiérarchie, d'autres ont peur des parents, d'autres ont peur que ça leur prenne beaucoup trop de temps et qu'ils soient mangés par tout ça. Et il faudrait que nous ayons une institution et des cadres qui aident à faire sortir ces énergies et à donner à toutes ces énergies les moyens de sa réalisation.
Et ça, du coup, est-ce que l'État peut le faire? Je veux dire, aujourd'hui, l'éducation, c'est quelque chose qui est géré au niveau extrêmement central, peut-être l'institution la plus centralisée aujourd'hui en France. Donc pour vous, il faut décentraliser, régionaliser.
Pour moi, l'institution est mal centralisée. Nous sommes aujourd'hui jacobins sur les moyens et girondins sur les fins. C'est-à-dire que globalement, tout élève de 6e, où qu'il soit en France, a le même nombre d'heures de maths. En revanche, moi j'habite à Lyon, entre les objectifs du lycée Jacques Brel à Vénissieux et ceux du lycée du Parc, qui est le lycée élitiste de Lyon, il n'y a pas les mêmes finalités. Hein. Donc je pense qu'il faut inverser ça. Il faut que les finalités, le cahier des charges soit commun. C'est-à-dire il faut que la République, les élus disent, voilà, les priorités c'est ça. Et ces priorités, c'est là-dessus que vous serez évalués. C'est des priorités. Par exemple, le rôle du centre de documentation, l'élection des délégués des élèves, les initiatives, la manière dont ils sont accompagnés, tout ça, ça fait partie des priorités. Et puis alors, sur les modalités, on vous laisse un peu de choix quand même, parce qu'il y a... Il faut bien le dire, il y a des élèves pour lesquels en 6e, 2 heures de maths, ça suffit, et d'autres pour lesquels il faut 6 heures. Donc les profs, ils sont capables de savoir ça. Il faudrait leur donner beaucoup plus de marge de manœuvre dans les modalités et être beaucoup plus ferme sur des finalités pour que celles-ci soient beaucoup plus conformes à l'idéal de chacun doit penser par soi-même et tous doivent pouvoir se parler en commun et faire du commun.
Et finalement, quand je vous écoute, est-ce que c'est pas autant les enfants que l'ensemble de la société qu'il faut éduquer pour avoir une nouvelle école, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'entreraient pas là-dedans, en fait.
Moi, j'aimerais bien une convention citoyenne sur l'éducation à qui on donne le temps de réfléchir, de consulter. de respirer, et puis que les professeurs ne se sentent plus comme ça, l'épée dans les reins, à la prochaine réforme, prochaine oukase, mais que toute la société s'empare de cette question et réfléchisse, parce que moi j'ai confiance, je pense que les gens, les citoyens et les citoyennes, ils veulent que leurs enfants vivent dans un monde serein, si possible de paix, et où on ne consomme pas les derniers restes de l'énergie à se taper dessus. Et je pense que si on y travaille ensemble, on doit pouvoir faire quelque chose dans l'école pour ça.
Une convention citoyenne, au-delà des présidentielles, pour 5 ans. On est parti.
En effet, ça me paraît un excellent programme. On va siffler la fin de la récréation. Merci beaucoup Philippe Mérieux d'avoir été notre invité ce matin. Merci Isabelle et merci Étienne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce programme, ce podcast, sur les plateformes du Jour du Seigneur, sur le site de RCF, et surveillez aussi les réseaux sociaux des Semaines Sociales de France. Et puis alors surtout, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez. À très bientôt.
Pas si simple. L'école ne sait plus éduquer. Un podcast produit par Le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines Sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin, Isabelle de Golemin. Réalisé par Nicolas Maupier. Prise de son, Sylvain Delecroix, David Sandras. Reportage, Geoffrey Defèvre, Sybille Delettre, Étienne Pépin. Montage son et mixage, Benjamin Alves. Voix off, Lison Ris. Documentation, Claire Latuile. Production, Frédéric Niquet-Châtelet. Archives France Télévisions, Together Media, France Inter, LCI, RTL, CNews. Musique, Mima Musique.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
Somewhere in the middle, I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change. But that went out the window, yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension, yeah, you guessed it, the kind that's fun. I hate it when you leave me unattended, cause I miss you, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Your hands on me, sweet relief, pretty, please, exactly where I want me, yeah, underneath your body, yeah, if we take it further, I swear I ain't gonna break, so baby, come try me, baby, come find me. Baby, don't wind me up. I'm a little, seem a little stressed out, but you're here now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it, the kind that's fun. I hate it when you leave me unattended, cause I miss you, and I need your love. But my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty, please. I need your hands on me, sweet relief, pretty, please. Spine, oh, you look so pretty. Please, every single night, I need your hands on me. When he kisses time, oh, you give me sweet relief, make me feel so pretty. Would you help me out, please?
Chaque semaine, dans le téléphone du dimanche, RCF vous propose d'écouter une sélection de témoignages de familles de détenus, d'ex-détenus qui n'oublient pas ceux qui le sont encore, mais aussi des messages de solidarité. Le téléphone du dimanche, l'émission pour maintenir le lien avec les détenus, présentée par Catherine Ségouffin, c'est chaque dimanche à 12h30.
Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long de l'année grâce au prélèvement automatique ? En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui offrez les moyens de se développer. Un don régulier suivant vos moyens, que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez, est déductible à 66% de vos impôts. Pour plus de renseignements ou faire un don dès à présent, rendez-vous sur don.rcf.fr.
Bonsoir à tous, merci d'être sur RCF Reims-Ardenne 87.9 à Reims et RCF Cœur de Champagne 88.6 à Châlons-en-Champagne. Il est 19h30. Tout de suite, le Sportiplex, présenté par Gauthier Baudson.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Sportiplex. Au programme aujourd'hui du foot, du basket, du hockey sur glace et bien plus encore. C'est parti pour cette nouvelle émission. Bonsoir à tous nos auditeurs. Avant de revenir un petit peu sur le programme de cette émission, on va faire un petit peu ce petit tour de table. Je vais commencer avec toi, Louis. Comment ça va, Louis ?
Bonjour Gauthier, ça va très bien et j'espère que nos auditeurs vont très bien aussi.
Et ben j'espère également. Aujourd'hui en technique, on est quand même bien accompagné parce qu'on n'a pas seulement Louis, mais on a aussi un autre invité qui a l'habitude de prendre ma place. Comment vous allez ?
Bah écoute, ça fait bizarre quand même d'être de l'autre côté de la fenêtre là. Bonsoir à toutes et à tous et bah bonsoir à vous en plateau. Mais c'est vrai que ça me fait un peu, ouais, c'est bizarre. C'est pas comme d'habitude. Mais bon, vous entendrez ma douce et merveilleuse voix tout au long de cette émission.
Et Louis.
Eh ben bonsoir à tous, je suis très heureux de revenir, surtout qu'aujourd'hui je forme un nouveau technicien, c'est Alexis Blanchard, vous l'avez déjà entendu à l'animation dans le Sportiplex, et là il se forme à la technique. Je suis très heureux de pouvoir apprendre la technique à quelqu'un, oui.
Un vrai couteau suisse, hein.
Effectivement, Alexis qui a l'habitude d'animer les émissions. Alors on va revenir un petit peu sur le programme de la soirée. On présentera Antonin et Pierre-Louis juste après. Effectivement, donc au programme, le Stade de Reims, voir un petit peu ce que le Stade de Reims est en train de faire cette saison, un petit peu la physionomie par rapport à Auxerre. On parlera aussi des Flammes Carolo, sur voir si c'est une saison difficile en fonction du résultat de cette soirée qui pourtant actuellement se prépare plutôt bien. Et puis on fera un petit débrief de leur match. Et bien sûr, gros événement de la soirée, c'est bien sûr le match des Phoenix, sur lesquels on va quand même rejoindre Antonin et Pierre-Louis. Est-ce qu'on peut avoir Antonin et Pierre-Louis ?
Oui, bonsoir Gauthier, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc oui, on est là pour commenter le match entre les Phoenix de Reims et les Renards d'Orléans. Bonsoir Pierre-Louis, comment tu vas ?
Bonsoir Antonin, bonsoir à tous. Bah, je suis très ravi d'être ici avec vous et de pouvoir vous commenter ce match des Phoenix de Reims également, comme vous l'avez dit, contre les Renards d'Orléans.
Ouais, un match, un troisième match qui va quand même être assez intéressant parce qu'on est sur deux équipes qui se ressemblent beaucoup, deux équipes qui ont à la fois réussi à gagner un match et perdu un match. Et là, le match va bientôt commencer d'ailleurs. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par les joueurs d'Orléans. Donc un match, ouais, qui va être assez intéressant à suivre, voilà, entre l'équipe, entre les Phoenix qui sont actuellement deuxième et Orléans qui est troisième. Et ça commence déjà avec une première attaque du côté des Phoenix, mais c'est de nouveau récupéré. Et presque, non, finalement c'est de nouveau récupéré par Orléans et c'est un peu le cafouillage dans la défense d'Orléans. Mais finalement, voilà, un petit arrêt avec deux joueurs qui vont rentrer sur le terrain. Et donc là, voilà, on a encore deux nouveaux changements également du côté des Phoenix. Voilà, avec un retour au centre du terrain. Et on va repartir, donc... déjà toujours 0-0, maintenant 1-0 entre les Phoenix et Orléans, avec un premier but marqué pour les Phoenix après quelques secondes à peine de jeu par Lacombe. Voilà, un bon début de match déjà des Phoenix de Reims qui amène déjà leur ambition, qui est bien sûr la victoire pour consolider leur place parmi les grandes équipes de ce début de saison. Et on a de nouveau une attaque de la part des Phoenix avec un nouveau tir, mais qui finalement ne passera pas. avec une bonne défense et c'est récupéré par les joueurs d'Orléans qui partent d'une contre-attaque éclair, mais finalement c'est récupéré de nouveau par les Phoenix avec de nouveau un tir, mais finalement ouais, ça repart.
Oui Antonin, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends tout à fait Gauthier.
Alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques informations sur ce début de match au niveau du jeu, comment ça se passe, comment tu vois un petit peu cette rencontre?
Alors pour tout vous dire, je pense que ça va être une rencontre assez serrée parce qu'on est quand même face à deux équipes qui ont un début de saison très similaire. Donc comme j'ai dit, une victoire ainsi qu'une défaite sur les deux premières rencontres. Donc voilà, un match qui va être soit très ouvert, soit très fermé. Mais bon, on espère voir du jeu, un intérêt certain des joueurs pour ce match. Espérer que ce match inaugurera encore plus ce beau début de saison de la part des Phoenix. Et là, voilà, de nouveau un tir du côté des Phoenix. Et de ce que je vois, il n'y a pas eu de but. Il a dû avoir une faute. Et ouais, et là on a un petit temps mort, un petit arrêt pour l'instant pour les joueurs d'Orléans. Et c'est rendu aux joueurs d'Orléans qui vont reprendre dans un instant.
Antonin, oui.
Oui.
J'avais une petite question pour vous. Là, on avait parlé avec le président, avec Gauthier.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'on a eu une discussion mercato alors que Louis Casto à côté de moi. Et mais est-ce que tu penses que une équipe plus jeune peut apporter davantage d'insouciance à l'équipe?
Alors c'est quand même assez, je pense que c'est assez difficile à dire. Je sais pas ce que tu me diras après, Pierre-Louis, ce que t'en penses. Mais je pense qu'une équipe jeune, faut quand même qu'elle soit encadrée par des joueurs expérimentés. Et il y en a quelques-uns quand même dans cet effectif. Donc il faut évidemment miser sur des joueurs jeunes parce que la particularité quand même du hockey sur glace, c'est que c'est très physique. Souvent on a quand même des changements pendant une ou deux minutes à chaque fois de temps de jeu. Donc il faut faire attention aussi à préserver les joueurs, à ce qu'ils soient capables de tenir quelques minutes et tout ça, de pouvoir reprendre après leur match. Donc je pense que c'est important d'avoir des joueurs voilà de 18, 19 ans aussi pour apporter cette fougue. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pierre-Louis?
Je pense également que c'est une bonne idée d'avoir des jeunes un peu plus jeunes, des joueurs un peu plus jeunes. Ça fait changer l'effectif. Là, on a pu constater avec de nombreuses arrivées cet été, avec par exemple Arthur Olive de 20 ans, Antonin Château, mais plein de joueurs, surtout axés sur la jeunesse. Mais oui, c'est quand même un beau recrutement qu'ils ont fait cette saison, avec beaucoup de Canadiens et des joueurs comme Arthur Olive, 20 ans, qui ressemble beaucoup à Alexis.
Et c'est aussi un peu la particularité aussi de cette équipe d'Orléans, parce qu'il faut aussi en parler un petit peu de cette équipe d'Orléans, qui est une équipe voilà qui a beaucoup d'ambition, qui avait commencé par une belle victoire face à Dijon, qui était champion de Détroit en titre. Ils avaient gagné 6-0, malgré une élimination prématurée en Coupe de France face au Comet de Meudon. Voilà, on a quand même deux équipes au profil assez similaire qui ont tout autant envie de poursuivre leur bon début de saison. Et là, on se retrouve dans le côté défensif des Phoenix qui repartent bien vers l'avant par une belle contre-attaque. Et ça part, et non, finalement, ça repart un peu en arrière et ça repart par une nouvelle contre-attaque du côté d'Orléans qui tente de centrer. Mais finalement, non, ça n'arrivera pas à l'attaquant d'Orléans. Et finalement, c'est récupéré par les Phoenix. Et donc là, encore de nouveau un temps mort. Obtenu et donc ça va être le duel entre le joueur d'Orléans et le joueur des Phoenix, et finalement c'est le Phoenix qui en est sorti vainqueur. Et ça repart en nouvelle contre-attaque sur le côté droit et ça centre, et finalement non, ça ne passe pas de ce que j'en vois finalement pour les Phoenix qui par contre vraiment poussent vraiment pour attaquer. Ils attaquent, ils essayent d'aller chercher vraiment les premiers buts dès ce début de match. Et c'est encore voilà les enchaînements de petites passes pour les Phoenix qui continuent à attaquer, à asséner d'attaque leurs adversaires. Et là, une nouvelle tentative, mais encore un petit cafouillage, et finalement c'est récupéré par les joueurs d'Orléans.
Oui, donc on a vu déjà ces deux équipes qui sont vraiment côte à côte hein, au niveau du classement. Deux matchs joués pour un match gagné. Donc non, excusez-moi, deux matchs gagnés. Les matchs étaient joués contre attendez, excusez-moi, les Français volants. Et puis un autre match également en déplacement à Chalon, qui a été le premier match et qui a été gagné par nos Phoenix.
Et attention, parce que là je te coupe, parce qu'on a une nouvelle attaque de Orléans qui essaye de montrer un peu les griffes aussi, les renards d'Orléans. Mais c'est de nouveau récupéré par une très bonne défense des Phoenix qui est très en place et qui arrive à repartir vite vers l'avant. Et finalement, ça a l'air d'être passé ou non? Non, finalement c'est pas passé. De nouveau pour les Phoenix qui continuent à pousser mais qui n'arrivent pas encore à faire céder le verrou d'Orléans. Cette équipe d'Orléans qui arrive à tenir pour l'instant le choc mais qui a du mal à vraiment réussir à pousser vers l'avant pour obtenir des résultats, et ça continue avec une nouvelle attaque du côté des Phoenix sur le côté gauche. Et finalement voilà, on essaye de dribbler un petit peu difficilement mais et c'est récupéré finalement. Ouais, c'est un peu difficile pour
le.
Ouais, c'est il y a une bagarre. Ouais, ça commence à se pousser un petit peu. C'est difficile pour les Phoenix d'essayer de trouver les espaces. Et finalement, un bel arrêt quand même du gardien là sur ce tir des Phoenix. Et oh, c'était tout juste pour que l'attaquant d'Orléans ne récupère. Mais finalement, voilà, c'est Orléans qui récupère au final et qui essaye de reprendre un peu le rythme du jeu. Mais qui a un peu de mal, voilà. On voit le bon pressing des Phoenix là qui se mettent déjà tout proche du gardien adverse. Mais voilà, on voit quand même une vraie volonté de pousser, d'aller vers l'avant, en espérant que cet effort puisse être poursuivi sur la totalité. Oh, le centre qui aurait pu être fatal aux Phoenix de Reims, mais finalement c'est raté pour l'attaquant d'Orléans.
Bah, ce que l'on voit depuis le début du match, c'est que franchement l'avantage il est en faveur de nos Phoenix, hein. Ils pressent, ils font des bonnes actions de jeu offensive, c'est des récupérations, il y a de la bagarre, on voit de l'envie dans leur jeu.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'Orléans est une équipe qu'on pourrait dire un peu moins expérimentée, malgré des joueurs très intéressants quand même dans leur effectif, dont par exemple Maxime Roland, joueur d'Orléans qui vient du club du HCMP, vice-champion de Division 2, quand même des joueurs qui ont un vrai intérêt mais qui pour l'instant ont du mal vraiment à s'exprimer, et en espérant qu'on soit que du côté des Phoenix on soit capable de consolider cette avance. Et ça repart dans le côté droit, oh, avec un gros tacle mais finalement pas de faute, et c'est parti sur le côté droit avec les joueurs d'Orléans qui ont failli inscrire leur premier but de la soirée, mais finalement j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Les arbitres semblent signaler qu'il n'y a pas but. Ouais, c'est un peu ça paraît un peu compliqué, mais finalement ça va être redonné aux joueurs d'Orléans et qui vont continuer à essayer de pousser, mais finalement voilà, c'est récupéré par les Phoenix qui continuent voilà avec ces contre-attaques éclairs. Tel qu'il ne les montre depuis le début de ce match, et c'est récupéré finalement par l'arbitre. Alors je ne sais pas, ah oui, c'est deux joueurs qui viennent de faire leur entrée, voilà, parce que comme on l'a dit, le hockey sur glace c'est un sport très physique, donc il n'est pas rare de voir beaucoup de remplacements dans des séquences de jeu voilà, de une ou deux minutes, voilà, c'est assez normal quand même dans un sport aussi intense et aussi physique qu'est le hockey sur glace. Et ça repart une nouvelle fois avec des nouvelles tentatives de tir du côté des Phoenix, mais ça ne veut toujours pas rentrer.
Oui, on voit qu'ils font vraiment tous les pressings, toutes les bonnes actions. Ils récupèrent vraiment tous les ballons et le pressing est payant, j'ai envie de dire. Donc là, on voit encore une action offensive de la part de nos Phoenix. Ce sera arrêté. Et le pressing qui repayera encore une nouvelle fois pour nos Phoenix qui remènent une action offensive.
Et avec un bon tacle quand même du défenseur d'Orléans qui récupère et finalement ouais, c'est récupéré par les Phoenix une nouvelle fois par une défense qui tient vraiment bien la route, qui arrive à bien passer, que ça soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, à essayer d'amener ce danger.
Voilà, encore une fois le pressing encore, a payé. Ouais. Franchement, il y a rien à dire sur leur défense à nos Phoenix, c'est bien établi.
Tout à fait. Et c'est vrai que là, c'était un des vrais enjeux quand même de ce match, c'est d'arriver à allier vraiment la force offensive et la force défensive Enfin, c'est une équipe qui a vraiment beaucoup d'ambition, notamment d'abord de se maintenir, mais aussi de tenir face au Phoenix de Reims. Et pour l'instant, c'est difficile pour Orléans qui a du mal à avoir des phases de possession. Tout à fait. Et donc là, ouais, comme on le voit depuis le début de ce match, ça part beaucoup du côté droit. Ça part beaucoup sur le côté droit en attaque, mais voilà, faut faire attention là comme maintenant.
C'est une belle fois récupéré. Donc ouais. Encore une fois, un pressing payant, mais oula, un peu d'agitement.
Ouais, il faut faire attention quand même à pas se laisser avoir par des petits mouvements et tout ça qui peuvent être assez dangereux pour nos défenseurs. Mais voilà, là c'est voilà, on a une petite pause avec une récupération côté Orléans, mais ça repart encore. Ce rythme effréné depuis le début de ce match, et c'est de nouveau récupéré par les Phoenix.
On voit mal leurs actions offensives au Renard aller jusqu'à leur terme. Donc c'est à chaque fois récupéré par les Phoenix, et là une nouvelle fois qu'ils mènent leur attaque.
Mais attention, parce que là ça fait plusieurs fois qu'on voit une petite mésentente dans la défense centrale. Ne pas se laisser surprendre par les attaquants d'Orléans qui ont aussi envie de se montrer. Et là encore, de nouveau, des changements. Trois joueurs qui rentrent, trois joueurs qui sortent. Voilà, parce que la défense d'Orléans est dans la difficulté et demande beaucoup d'efforts que de résister à ces assauts effrénés des joueurs des Phoenix. Et là, on a un petit cafouillage sur le côté. Et finalement, c'est encore récupéré par les Phoenix qui font décidément un début de match presque parfait. Il manquerait juste encore quelques buts peut-être pour concrétiser vraiment cette domination. Mais là, ouais, c'est voilà, on a des phases un petit peu de possession rapidement. Ça paraît un tout petit peu plus haché. Mais voilà, c'est même quand la défense d'Orléans essaye de se libérer de cette pression finalement. Ils se font récupérer presque automatiquement par les Phoenix avec un pressing infernal. Et là, c'est encore de nouveau les Phoenix qui reprennent derrière leur propre but. Voilà, tranquillement. Le pressing n'est pas extrême du côté d'Orléans. Ils ont le temps quand même de prendre leur temps pour avancer tranquillement, d'avoir une bonne stratégie de jeu. Et ça repart au centre avec une nouvelle incursion des Phoenix sur le côté gauche. Mais voilà, le joueur était un peu trop seul. Et voilà, ça repart sur le côté droit, voilà, comme on le dit depuis le début de ce match.
C'est très physique.
C'est très physique, tout à fait. Et puis, voilà, on a beaucoup d'enchaînements de droite à gauche, de gauche à droite.
Oui, mais on trouve que les Phoenix, quand même, arrivent à pénétrer facilement la défense d'Orléans, excusez-moi. Mais oui, là, on les voit mal à faire arriver à terme leurs attaques, mais j'en doute pas, ça va venir. C'est juste un manque à la toute fin de finition, mais franchement là c'est quand même une belle première partie qu'on voit de la part de nos Phoenix.
Oui, et puis comme tu l'as dit, et c'est quand même aussi marquant de souligner la bonne performance déjà du gardien d'Orléans, parce qu'il a eu pas mal d'arrêts à faire, et finalement il arrive à garder juste ce petit écart de 1-0 toujours à 9 minutes de la fin de ce premier tiers-temps. De ce match entre les Phoenix et Orléans. Voilà, les Phoenix qui sont pour l'instant vraiment très au-dessus, voilà, avec une nette domination. Mais il faut faire quand même attention à cette équipe d'Orléans qui a montré qu'elle était capable de résister et de marquer surtout, comme ce fut le cas lors de la première journée face à Dijon, avec ce score assez impressionnant quand même de 6-0. Et là, on a un petit arrêt, voilà, qui va laisser un petit peu, qui va permettre aux joueurs aussi de se reposer deux minutes avant de reprendre. Et voilà, l'arbitre qui vient de lâcher, et c'est de nouveau pour les Phoenix que ça repart sur le côté gauche. Voilà, le palais a été un peu perdu rapidement, malheureusement, mais c'est récupéré par Orléans et qui repart en contre-attaque, mais l'attaquant d'Orléans est un petit peu court pour pouvoir reprendre correctement cette attaque. Finalement, c'est récupéré presque par les Phoenix avec un pressing très impressionnant. Le joueur d'Orléans était un peu seul face à quatre défenseurs des Phoenix. Voilà, on voit cette vraie volonté d'être bon offensivement, d'être aussi bon défensivement. C'est très important pour tenir ce score et essayer de pourquoi pas essayer de mettre encore plus de points.
Oui, c'est vrai que on peut souligner quand même des bonnes phases défensives hein, pour Orléans malgré leur moins bonne phase offensive, mais tant que leur défense suit, c'est vrai qu'à un moment il va falloir quand même pensait à faire de plus belles phases offensives, mais là, c'est quand même défensivement très solide.
Oui, tout à fait. Et là, on repart encore une nouvelle fois sur ce côté droit qui est décidément très, très animé, très actif du côté des Phoenix. Et ça repart. Et c'est de nouveau récupéré par les joueurs d'Orléans qui repartent pour une des premières incursions sur le côté droit. Voilà, ça zigzague un petit peu, ça essaye de tenter des passes, mais le bloc est vraiment compact. C'est difficile de pénétrer dans cette défense des Phoenix. Et voilà, encore une nouvelle perte du côté d'Orléans, une récupération par les Phoenix qui décidément arrivent à garder ce match en main. Là, depuis déjà 13 minutes, où les Phoenix vraiment font peut-être presque le tire-temps presque parfait. Il manquerait juste, comme tu l'as souligné, vers Louis, voilà, essayer de mettre réussir un peu plus offensivement du côté des Phoenix qui manque encore avec ce score de 1-0 qui ne reflète pas ce premier tiers-temps qui mériterait peut-être même plus 2 ou 3-0.
Oui, c'est vrai. Donc j'espère que Reims réussira quand même à marquer un petit peu plus, mais c'est vrai, c'est une sacrée prestation qu'il nous fait le gardien d'Orléans. Mais oui, ils ont des bonnes phases offensives et franchement, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ils vont marquer, j'en ai aucun doute.
Oui, et puis on peut aussi souligner que Orléans est un petit peu, entre guillemets, dans la difficulté. C'est un peu difficile à dire. Mais ils ont perdu leur dernier match, comme les Phoenix, face aux Gaulois, justement, de Chalon, 4-3. Donc souvent, c'est quand même des rencontres assez animées du côté d'Orléans. Donc on peut s'attendre à ce que dans les prochains tiers-temps, peut-être, on l'espère en tout cas, voir un peu le match s'emballer le plus possible. Et justement, et là, ça repart une nouvelle fois. Voilà, avec une nouvelle attaque, mais finalement les Phoenix qui n'arrivent toujours pas.
Je crois qu'il est rentré.
Oui. On l'avait pas forcément bien vu, mais au final ils ont réussi à remettre un deuxième. Voilà, c'est ce qu'on leur demandait quand même aux Phoenix depuis le début de ce match, c'est d'essayer de mettre ce deuxième point qui manquait un peu à ce début de match. Et là, c'est chose faite. Franchement, là, on pourrait presque penser que c'est le tiers-temps parfait, n'est-ce pas, Pierre-Louis ?
Bah, c'est un peu tôt pour le dire parce que il reste quand même 6 minutes à ce tiers-temps, mais ils sont très très bien partis pour s'imposer dans ce tiers-temps.
Et ça repart. Et là, déjà dès le coup d'envoi, une récupération de nouveau des Phoenix, mais un arrêt de jeu peut-être une faute, je ne sais pas, qui stoppe momentanément le jeu. Ah, et ça va reprendre, il y a dû avoir une petite erreur, mais ça repart du côté d'Orléans. Et Orléans, voilà, qui essaye d'enchaîner un petit peu la possession, parce que là, c'est difficile depuis le début de ce match. Et c'est récupéré par Orléans après une petite légère perte de balle. Et voilà, et les Phoenix, ils sont toujours là pour presser l'adversaire et essayer d'amener ce danger constant face au but d'Orléans.
Comme tu le disais, c'est quand même un sport très très physique. Hein. On les voit se pousser vraiment à mort pour essayer de récupérer le palais. Hein.
Oui, tout à fait. Et là, voilà, on a encore une belle période défensive quand même des Phoenix là qui viennent de récupérer et qui repartent une nouvelle fois sur le côté gauche. Mais finalement, ouais, c'est récupéré par Orléans difficilement, qui repart en contre-attaque sur le côté droit. Et c'est reparti. Et finalement, non, ça a été contré. Un peu en catastrophe par le défenseur des Phoenix et ça repart une nouvelle fois. Voilà, Orléans qui récupère et qui joue un peu bas, qui a du mal à se projeter véritablement vers l'avant. Mais voilà, pour l'instant, on a un match qui est pour l'instant vraiment abouti du côté des Phoenix qui continue à pousser. Et là, une nouvelle fois du côté droit, les Phoenix voilà qui
s'est d'amener ce,
voilà qui voilà ah qui pour l'instant c'est On essaie déjà de garder ce score à 5 minutes de la fin de ce tiers-temps. Donc on rappelle le score 2-0 pour nos Phoenix face à Orléans. Donc un début de match extrêmement abouti, même si pour l'instant on pourrait espérer encore un peu plus de buts marqués.
Oui, c'est vrai, mais j'en doute pas, ça va arriver plus tard dans le tiers-temps. Mais oui, là, il faut avoir aucun doute en nos Phoenix, là, même défensivement c'est très solide. Hein.
Ouais, et puis là, ouais, là, on voit quand même que Orléans essaye de pousser un petit peu dans cette fin de premier tiers-temps, même si pour l'instant, c'est malheureusement pour eux insuffisant. Ils n'arrivent pas à véritablement à amener le danger. Et oh, le gros cafouillage à une tentative à quelques centimètres des buts d'Orléans et le gardien et son défenseur sont à terre. Voilà, bon, sûrement quand même une faute pour Orléans, voilà, qui d'ailleurs en profite une nouvelle fois pour faire rentrer deux nouveaux joueurs. Voilà, on a quand même beaucoup de remplacements dans ce match, comme tu l'as signalé très bien, Pierre-Louis. Un sport très physique, voilà, qui demande beaucoup, surtout dans un match, voilà, où les efforts offensifs mais aussi défensifs de chaque côté sont vraiment importants.
Oui, donc là, avec les arbitres, ça va bientôt reprendre.
Ouais, pour l'instant, là, on a toujours ces petites pauses, quand même pour faire respirer un peu les joueurs, parce que bon, c'est vrai que c'est là la pression est quand même assez folle. Là, il y a vraiment beaucoup de tension, surtout que quand même les supporters sont venus très nombreux, donc les joueurs ont vraiment envie de se montrer dans ce match. Voilà, un match qui est très important pour montrer la bonne dynamique des deux équipes qui sont parmi les meilleures sur ce début de saison.
Voilà, et pourquoi pas avoir leur sixième point aujourd'hui,
ça serait,
avec une victoire.
Tout à fait, ça serait vraiment très bien, ça serait une très bonne nouvelle, et ils pourraient ainsi remonter rattraper le premier du classement.
Qui est Evry Viry.
Tout à fait, et qui va également jouer son match peut-être ce soir. On suivra ça aussi avec intérêt. Mais pour l'instant, voilà, les Phoenix pour l'instant dominent leur sujet, vraiment sont tout à fait bons dans leur approche de ce match, et ça repart une nouvelle fois dans le cercle de défense d'Orléans. Et oh, une bonne percée quand même de l'attaquant d'Orléans qui se rapproche dangereusement, mais très bel arrêt du gardien des Phoenix qui a sorti l'arrêt qu'il fallait à 3 minutes de la fin de ce tiers-temps, et ça repart une nouvelle fois en contre-attaque. Peut-être que ce match va encore plus s'emballer, on l'espère, c'est ce qu'on attend aussi de nos Phoenix qui soient capables de développer un peu cette folie presque qui est aussi belle dans le hockey sur glace.
Et oui, donc comme on le disait tout à l'heure, Evry Viry, les premiers actuels au classement de cette division 2 de hockey français. Donc ils affrontent ce soir actuellement Courbevoie, du coup dans le cadre de cette deuxième division de hockey.
Ouais, tout à fait, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir suivre, parce que on est pour l'instant, les Phoenix sont pour l'instant deuxième, mais voilà, il faut essayer aussi de rattraper Evry sur ce début de saison, pour essayer de vous montrer vraiment les ambitions des Phoenix. En tout cas, c'est ce qui nous montre parfaitement dans ce début de match. Ils montrent vraiment de très belles envies pour ce match à domicile, pour montrer vraiment à leurs supporters qu'ils sont pas là pour rigoler, qu'ils sont là vraiment pour obtenir un résultat clair.
Mais je pense que Evry Viry va consolider sa place de premier au classement général, parce que ce soir elle joue Courbevoie, les septièmes du classement. Mais je pense que c'est un peu tôt pour dire que Courbevoie est une équipe de bas de tableau, parce que c'est que un match joué pour Courbevoie. Mais voilà.
Mais donc oui, là on repart une nouvelle fois sur une attaque de la part d'Orléans qui essaye de pousser un petit peu, même si c'est très laborieux. Voilà, pour essayer de réduire un petit peu l'écart, mais c'est de nouveau récupéré par les Phoenix, voilà, qui repartent de leur bloc défensif très important, et qui repart avec une nouvelle tentative de tir, mais finalement ce n'est pas rentré du côté des Phoenix. Voilà, on a un nombre de tirs assez affolant de Norémois, qui semble vraiment avoir envie de montrer des résultats, et là encore de nombreux joueurs qui sont sortis et remplacés côté d'Orléans. Vraiment, on a vraiment du mal du côté des Renards à trouver la solution dans ce début de match. Et c'est pour ça que là, on reprend une nouvelle fois, et c'est de nouveau les Phoenix qui récupèrent sur cette partie, sur la partie droite du terrain. Et une nouvelle fois, une pause, encore peut-être une faute du côté des Rémois, et ça va être remis remis au centre, et c'est de nouveau récupéré par les Phoenix qui continuent à pousser sur le côté droit, Et c'est récupéré et puis re-récupéré de nouveau par les Phoenix. Très impressionnant ce pressing constant qu'ils opposent à leurs adversaires. Mais c'est récupéré pour une de ces contre-attaques un peu solitaires du côté d'Orléans. L'attaquant d'Orléans n'est jamais vraiment suivi par ses coéquipiers. Et la défense des Phoenix à 4 ou 5 arrive sans problème à contenir ces assauts.
Oui, voilà, elles ont du mal à arriver à terme ces phases offensives de contre-attaque pour les Renards.
Et donc là, c'est de nouveau reparti avec de nouveau des changements encore, oui, parce que là,